les enfants de Cronos. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas Bilot, archéologue, vous présente aujourd'hui le château de Nel-en-Dol. À moins de 5 km par la route du château de Fer en Tardenois, dont nous avons parlé dans le précédent épisode, se dresse une autre majestueuse fortification des comtes de Dreux ou comtes de Brenne, le château de Nel-en-Dol, classé monument historique en 1922. Mais château, vraiment ? Il en a l'allure, effectivement. Mais il n'apparaît dans les sources qu'en 1226, où il est mentionné comme « maison forte ». Il faut bien comprendre la différence entre « château » et « maison forte ». La différence, c'est essentiellement un pouvoir châtelain qui dépend du château, et notamment un droit de justice, un droit d'impôt et un droit à la guerre, ce qui n'est pas forcément le cas de celui qui réside dans une maison forte. À ce moment, le château de Nel-en-Dol est la propriété de Robert III de Dreux. C'est le frère du sire de Fer en Tardenois, Pierre Mauclair, dont nous avons parlé. Château de frère, château voisin, et pourtant château ennemi, ou presque strictement opposé du point de vue architectural. Reprenons. Nous avions à Fer en Tardenois un château à l'opposé du modèle qu'impose le monarque Philippe Auguste dans le royaume. Et pour cause, Pierre Mauclair s'était rallié à la comtesse de Champagne, et il était l'adversaire du roi de France dans ses plus jeunes années. Nous trouvons ici à Nel-en-Dol une copie, à l'inverse, du château royal de Dourdan. Mais c'est logique, puisque Robert III, lui, est un fidèle du roi de France. Et lorsque je dis copie, je pèse mes mots. Le plan général est celui d'un carré de 70 mètres de côté à Dourdan, de 69 mètres de côté à Nel. Même si à Nel, le carré est parfait, ce qui n'était pas le cas à Dourdan. On va y compter 8 tours. C'est-à-dire une à trois des angles, une au milieu de trois des faces et deux qui encadrent l'entrée. Et puis surtout, on va y trouver la fameuse tour maîtresse, vous savez, le fameux donjon qu'on raconte souvent, alors qu'à Fer en Tardenois, je le rappelle, il n'y en a pas. Le tout est bien sûr entouré d'un fossé, et bien que j'ai déjà dit souvent dans ces notices que les fossés du Moyen-Âge étaient secs et non pas en eau, contrairement à une idée reçue, et que les fossés en eau apparaîtront essentiellement à la Renaissance, eh bien il s'agit bien à Nel, dès le plein Moyen-Âge, de véritables douves, de fossés en eau, alimentés par le Ru du Pont Brûlé, un joli petit nom pour un humble cours d'eau qui est un affluent de l'amont de l'Ourcq. Il faut dire qu'à l'origine, les terres autour du château sont largement marécageuses, et qu'on a peine à croire, au vu des parcelles dédiées à la grande culture aujourd'hui, que le site était auparavant un site un petit peu isolé. Copie exacte du château royal de Dourdan, vraiment ? Eh bien, pas tout à fait. Car quelques éléments sont plus impressionnants encore à Nel-en-Dol. Revenons-y. Les tours de l'enceinte, tout d'abord, plus grosses qu'à Dourdan. 10,50 m à Nel, 9 mètres environ de diamètre à Dourdan. Elles sont toutes très stéréotypées. Un petit talus à la base, pour empâter la fondation et faire mieux tenir la structure. Trois niveaux, le premier sous voûte, le second sous plancher, le troisième sous comble, sous charpente, et des archères au niveau 1 et 2, 3 par 3, mais décalées pour ne pas affaiblir les maçonneries. Remarquez tout de même, en visitant le site, que les tours varient par leur organisation de circulation. Dans certaines, on y entre par la cour, dans d'autres, par le chemin de ronde qui règne sur les remparts. Certaines ont des escaliers internes, des communications internes. D'autres ont des niveaux indépendants. Alors quoi, vous allez me dire ? Ils ne savent pas bâtir deux tours identiques ? Eh bien si, bien sûr, mais ils ne le veulent pas. L'idée, en fait, c'est de faire en sorte que toutes les tours soient différentes, afin qu'en cas de siège, si l'assaillant se rend maître de l'une des tours, il ne puisse pas pour autant déduire les dispositions internes de toutes les autres. Il ne peut pas tirer expérience d'une tour qu'il a déjà prise pour améliorer la prise de la tour suivante. Il suffisait d'y penser, comme on dit, mais c'était quand même une belle preuve de cette architecture militaire, architecture seigneuriale du Moyen-Âge. Ensuite, on a la grande tour maîtresse. C'est un peu la 9e tour du château, au dernier angle. À Dourdan, elle faisait 13,50 m de diamètre, à Nel-en-Dol, elle en fera 17. Elle était probablement haute de près de 30 mètres à l'origine, du moins au faîte de la toiture. Comme les tours de l'enceinte, elle présente elle aussi un petit talus à sa base, encore une fois pour qu'elle soit mieux assise dans ce territoire globalement marécageux. Mais le plus curieux à propos de cette tour, n'est-ce pas tout simplement qu'elle ne paraît pas être dans le château ? Effectivement, elle en est déconnectée. Elle est rejetée sur un angle et elle est même totalement indépendante puisqu'elle est bordée elle-même entièrement du fossé en eau. Du coup, l'accès s'effectue par la cour, mais par une passerelle qui enjambe la douve. Alors pourquoi isoler la tour ? Eh bien, toujours dans un esprit de défense. Si le site tombe aux mains de l'assaillant, il faut pouvoir se replier progressivement. Et si toute la cour tombe aux mains de celui qui assiège le château, eh bien le donjon constituera le dernier et ultime réduit défensif. Bon, ne le cachons pas, hein. Une fois que vous en êtes là, c'est que ça va mal. Il ne vous reste plus qu'à vivre sur les réserves que vous avez emmagasinées dans la tour, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on trouve dans la tour un puits intégré à la maçonnerie, afin d'être autonome en eau, et il ne vous reste plus qu'à espérer qu'une armée alliée viendra prendre à revers l'assaillant, ce qui arrive très rarement au Moyen-Âge. Ne nous trompons pas, en réalité la tour maîtresse, malgré tous ses arguments défensifs, n'a jamais été prévue pour être véritablement fonctionnelle. C'est un symbole du pouvoir. Elle n'a d'ailleurs jamais été prévue non plus pour être strictement résidentielle, contrairement à ce qu'on en dit. Ce n'est pas à proprement parler la maison du Seigneur. Il n'y a dans cette tour que trois niveaux, comme dans les tours d'ailleurs, dans les tours de l'enceinte. Et tous sont presque aveugles. Les deux premiers sont voûtés et le second est sous charpente. On y trouve une cheminée au deuxième étage, effectivement, et peut-être une à l'origine au troisième. Mais à part une latrine externe entre les niveaux 2 et 3 qui montre qu'on avait quand même un petit souci pour gérer l'hygiène, l'ensemble est assez inconfortable et en fait ne servait que très occasionnellement à loger. Retenez ceci, au Moyen-Âge central, dans beaucoup de châteaux, le donjon est une coquille vide. La plupart du temps, le seigneur préfère vivre au quotidien dans un beau logis de plain pied, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus confortable, et qui est tout simplement installé dans la cour du château. Une tour sombre, un petit peu lugubre, il faut bien l'avouer, où il faut monter 40 marches pour aller rejoindre son lit, ça n'intéresse personne. Et le logis annel, qu'en est-il alors ? Eh bien, malheureusement pour nous, celui du milieu du Moyen-Âge a disparu. Mais, en contrepoint, on a une forte chance, c'est qu'il nous est parvenu celui qui a été rebâti à sa place au tournant des 15e-16e siècles. Il a été reconstruit dans un style qu'on dirait Louis XII, qu'on appellerait aussi pré-Renaissance. Figurez-vous donc un beau bâtiment adossé à l'enceinte, en briques et pierres au rez-de-cour, à un étage en grès. Étages qui sont reliés ensemble par une belle tour escalier en vis au milieu de la façade, mais à l'extérieur. Bon, l'étage et la tour ont disparu, mais les plus attentifs en repéreront les traces dès que vous irez visiter le site. Notons tout de même que quelques restaurations un petit peu violentes au XXe siècle ont légèrement dénaturé le bâtiment, mais il reste grandiose et la présence de ces briques dans un château essentiellement en calcaire et grès a tendance à ajouter de la couleur et à magnifier l'ensemble. De même d'ailleurs pour l'ancienne basse-cour qu'il faut voir avec les yeux de la foi. Elle a presque entièrement disparu et pourtant elle entourait à l'origine le site sur trois de ses côtés. N'oubliez jamais que s'il y a château, il y a basse-cour. Un château est aussi toujours une ferme au Moyen-Âge. Malheureusement, la basse-cour du château de Nesle, je vous l'ai dit, a presque entièrement été arasée et il n'en reste que quelques rares indices. Ici encore, seule l'imagination ou seule une belle et ambitieuse fouille archéologique peuvent faire revivre cet élément. Oh, bien sûr, le site évoluera après le Moyen-Âge. On réaménagera les archères, par exemple, pour en faire des canonnières, puisqu'entre-temps est apparue l'arme à poudre. On créera même quelques nouvelles canonnières dans les courtines. Puis, on démilitarisera totalement le château pour en faire une ferme dès peut-être la fin du XVIe siècle. Et finalement, tant mieux. C'est parce qu'il fut une ferme que le château de Nesle fut entretenu et qu'il nous est parvenu. Il a certes été modifié au passage, et si l'on a perdu l'essentiel des bâtiments que devait abriter la cour à l'origine, le château reste globalement dans sa silhouette générale un beau château médiéval. Et pourtant, il restera un point fort, même s'il n'est plus une fortification à proprement parler, puisqu'en juillet 1918, après 3 jours de combat, les Américains de la 42e division US Rainbow, qui sont sous le commandement de MacArthur, le futur général qui à ce moment-là n'est encore que colonel, reprennent le château de Nellandol aux troupes allemandes. Le château en garde quelques stigmates, presque anecdotiques, mais c'est surtout l'impressionnant cimetière militaire américain voisin qui constitue le plus surprenant témoignage de la violence de ces combats. Mais ceci est une autre page de l'histoire que je ne peux que vous encourager à aller découvrir sur place également.